candidature de l'actuel président pour un troisième mandat à la tête du pays.
Je refuse totalement cette
histoire. Toi, c'est Céline de Combatie, aucun langage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Toutes les dépenses autres que celles liées aux rémunérations et fonctionnement des cabinets des membres du gouvernement devront être soumises à la prestation à obtenir préalablement l'aval du Premier ministre avant d'être exécutées. Cette décision du Premier ministre est contenue dans sa lettre du 20 avril 2015 adressée aux membres du gouvernement. Pour Augustin Matatampogno, cette mesure vise la réduction des dépenses pour faciliter ainsi la mobilisation des moyens nécessaires afin de faire face aux préparatifs de mise en place et d'installation des nouvelles structures et entités ainsi qu'aux échéances politiques à venir. Certains observateurs estiment que cette décision permettra effectivement au gouvernement de financer la mise en place de ces entités ainsi que les élections. D'autres, par contre, préconisent, outre ces mesures, la bonne canalisation des différentes recettes et redevances dues au trésor public. Comment commentez-vous cette actualité? 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Mimi Kindou. Julie Feza est à la réalisation et Firo est la mise au micro pour la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est dans sa lettre du 20 avril 2015 adressée aux membres du gouvernement qui est le Premier ministre a fait savoir que toutes les dépenses autres que celles liées aux rémunérations et fonctionnement doivent être soumises à son appréciation ainsi qu'obtenir au préalable son autorisation de ces faits sans préjudice des principes et procédures telles que prévues par la législation en matière des finances publiques. Toutes les dépenses en dehors de celles relatives aux rémunérations et fonctionnement devaient passer par les cabinets du Premier ministre. Il a justifié ceci en disant qu'il y a une baisse drastique des recettes dues, bien sûr, aux évolutions des récentes de l'économie mondiale, ainsi qu'à certains facteurs conjoncturels endogènes. Alors, en ce qui concerne les frais d'émission et d'autres dépenses qui ne sont pas prises en compte dans les budgets de fonctionnement de leur cabinet, il faudrait une autorisation expresse du Premier ministre. Plusieurs personnes estiment que cela peut aider le gouvernement à mobiliser les recettes pour faire face à la mise en place des entités prochaines ainsi que le financement des élections. D'autres, par contre, estiment qu'il faudrait, au-delà de ces mesures, canaliser les recettes et autres redevances dues au trésor public dans les trésors publics pour faciliter au gouvernement de pouvoir mobiliser ces recettes. La question, c'est comment vous réagissez par rapport à ces deux tendances. 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous avons associé à cet échange Michel Sommoy, analyste économique. Michel Sommoy, vous êtes avec nous en direct dans cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'à un certain moment, c'est nécessaire et possible que le gouvernement prenne la décision de pouvoir exécuter des coupes dans ses dépenses pour arriver à faire face à certains besoins au cas où on se rend compte que les recettes ne permettent pas de faire face aux besoins d'une manière normale?
Bien sûr. Bien sûr, lorsque l'on se rend compte que les objectifs qui ont été assignés au gouvernement ou que le gouvernement s'est assigné lui-même à travers le budget et ces outils sont loin d'être atteints et qu'il y a un risque de dérapage quelque part, il est normal qu'on puisse réajuster le tir. C'est pour cela d'ailleurs que de temps en temps, au-delà d'un budget, après avoir présenté, après avoir voté, promulgué, etc., le budget, il arrive à un gouvernement de présenter au Parlement ce qu'on appelle le collectif budgétaire.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, en fait, un budget réaménagé après avoir constaté que les premiers objectifs sont loin d'être atteints. Quand je dis cela, ça veut dire que dans le cas d'espèce, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, j'imagine que le Premier ministre qui a pris une telle mesure, parce que celui qui a la gestion au quotidien des finances et de l'économie de l'État, il a certainement dû se rendre compte que, comme vous l'avez évoqué d'ailleurs, pour des raisons de conjoncture internationale et peut-être aussi de conjoncture intérieure, les recettes telles qu'elles étaient attendues ne répondent pas aux attentes du gouvernement. Alors à ce moment-là, il faudrait, étant donné qu'il y a des objectifs de dépenses à réaliser, il faudrait que l'État, que le gouvernement priorise un certain nombre de fasse un choix, c'est-à-dire un choix parfois douloureux parmi les objectifs à atteindre, un choix parfois douloureux, il faut que le gouvernement fasse des coupes budgétaires, comme on les appelle, pour que les dépenses qui sont supposées être prioritaires ne puissent pas partir d'une modification de la conjoncture. J'imagine que le Premier ministre Matata, qui a pris cette mesure de limiter les dépenses des cabinets ministériels, a certainement apprécié lui-même soit l'inefficacité de certaines dépenses par rapport aux attentes de l'État, par rapport aux besoins de survie de l'État, notamment des dépenses de frais d'émission et autres. Je suppose qu'il a apprécié leur inefficacité par rapport à certaines autres dépenses, notamment celles liées à l'organisation des élections qui sont le point de consécration de la démocratie dans notre pays.
Mmh.
Donc, mais il faudrait dire aussi tout de suite après que le problème, c'est que le budget est en lui-même un état prévisionnel. Et quand un gouvernement fait voter ou un budget par le Parlement, il le fait promulguer par le chef de l'État, il est supposé avoir fait des analyses suffisamment rigoureuses pour que de telles mesures tempestives ne surviennent pas rapidement dans l'exécution de ce budget-là. Donc, il y a eu quand même une question, à mon avis, de la rigueur dans les prévisions budgétaires dans notre pays. Tant il est vrai que depuis des années, depuis Belgrade, nous n'avons jamais atteint les assignations qui sont inscrites au budget de l'État.
Mm-hmm.
Vous souviendrez que jusqu'à ce moment où je parle, nous n'avons pas encore atteint 5 milliards de dollars de recettes budgétaires, alors que de façon régulière, le gouvernement nous présente des budgets allant variant entre 8 milliards et 9 milliards. Donc, on n'est même pas arrivé à plus ou moins la moitié de ce budget. Ça traduit quand même un état, à mon avis, de légèreté dans les prévisions que l'on fait du budget. Et c'est dans cette légèreté que l'on peut comprendre que des dépenses qui pourraient probablement être très bénéfiques pour le pays soient en quelque sorte suspendues. Dieu merci. Je comprends qu'il ne s'agit pas de la suspension de ces dépenses, mais de l'autorisation préalable du Premier ministre par rapport à certaines dépenses qui ne sont pas jugées prioritaires par lui, en espérant qu'il n'y aura pas beaucoup d'arbitraires non plus dans cette façon de gérer.
Alors, mais dans l'autre cadre, est-ce qu'on peut craindre que cela puisse avoir un ralentissement dans le fonctionnement quand même de ces ministères, parce qu'il y a peut-être des missions qui étaient en cours, il y a des réalisations par exemple des programmes qui pouvaient être initiés dans les différents secteurs. Comment alors on peut arriver à rééquilibrer pour que du côté aussi de ministères qu'on puisse pas sentir vraiment ces coupes par rapport aux programmes déjà élaborés dans chaque secteur?
Oui, j'ai parlé tout à l'heure de coupes douloureuses, de sacrifices que de telles opérations de révision budgétaire entraînent. Donc pourquoi? Parce que lorsque on a élaboré des prévisions budgétaires, chaque ministère est supposé avoir pris en compte l'ensemble des dépenses indispensables et importantes qu'il devait réaliser pour son efficacité propre. Donc, et ces dépenses ayant été agréées et au niveau du gouvernement, et au niveau du Parlement, et au niveau du chef de l'État, revenir en arrière par rapport à ces besoins exprimés par les ministères ne peut pas ne pas perturber le bon fonctionnement de ces ministères concernés. Donc ça, il faudrait bien qu'on se le dise. Mais comment faire pour que cela ne puisse pas avoir un impact significatif? Ben, je ne sais pas, ça va dépendre de l'importance des dépenses concernées, ministère par ministère.
Oui.
Ça va dépendre certainement aussi des enveloppes budgétaires qui étaient affectées par ces différents ministères à des besoins autres que le fonctionnement de la rémunération de leur cabinet. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai entendu dire, qu'il ne s'agit pas forcément de la suppression des dépenses, mais de leur autorisation préalable par le Premier ministre.
Oui.
Comprendre.
Mm-hmm.
Ça, c'est fait dans le schéma normal d'une gestion plus ou moins orthodoxe, afin d'éviter des dérapages, afin d'éviter des gaspillages, pour ainsi dire. Ça veut dire que les temps sont durs. Nous savons tous que les dépenses nécessitées par l'organisation des élections sont trop importantes par rapport à notre capacité de mobiliser des recettes, nous le savons tous. Et étant donné qu'il y a une pression de la part des acteurs politiques sur l'organisation des élections, même s'il y a un peu de division de l'idéance de vue par rapport à cette question, mais étant donné la pression que la CNI, quelque part, exerce sur le gouvernement pour le respect de son calendrier électoral, je comprends que le gouvernement puisse être quelque part aux abois et donc dans la nécessité incontournable de se faire violence pour sacrifier ce qui est sacrifiable.
Nous allons revenir à vous, le temps d'écouter les auditeurs qui sont avec nous, Maître Sonville de Lubumbashi et Clovis de Mujimayo, Kassa Oriental, 081-893-1515. Comment appréciez-vous cette décision du Premier ministre selon laquelle toutes les dépenses autres que celles liées aux rémunérations et fonctionnement des cabinets des membres du gouvernement devront être soumises à l'appréciation et obtenir préalablement l'aval du Premier ministre? C'est cela est contenu dans sa lettre du 20 avril 2015 adressée aux membres du gouvernement. Le but aujourd'hui, c'est de mobiliser assez de moyens nécessaires afin de faire face aux impératifs de mise en place d'installation de nouvelles structures et entités ainsi qu'aux échéances politiques à venir. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Capi.
Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'éditeur, bonjour à tous les millions d'éditeurs de Radio Capi.
Certains observateurs estiment qu'au-delà de ces mesures par rapport à l'autorisation du Premier ministre quant aux dépenses autres que celles portant fonctionnement de cabinet, rémunération, il faut aussi une canalisation d'autres recettes de rédévances, n'est-ce pas, dues au trésor public pour accompagner le gouvernement effectivement à faire face à toute mobilisation des recettes pour le besoin à venir. Quel est votre point de vue?
Bon, j'ai toujours dit que peut-être premier jour parce que jamais, c'est aujourd'hui que le gouvernement vient de se rendre compte qu'il n'a pas su mobiliser les recettes pour les tâches qui lui sont dévolues, par exemple l'installation de nouvelles entités et l'organisation des élections. Mais le gouvernement, hormis cela, il savait que les élections devaient se tenir il y a 5 ans. Il était convenu dans la Constitution de quoi ça met les 40% que les provinces devaient retirer la source. Cela a été boycotté, ça n'a pas été effectif. Voilà que maintenant, le gouvernement se trouve devant un fait accompli. En ce qui concerne cette autorisation préalable pour décaisser, pour protection des dépenses, en ce qui concerne le ministère, ça ne peut pas se limiter à ce niveau-là. S'il y a des questions qui sont très trop budgétivores, il faut que le Premier ministre sache aussi, puisse inviter aussi peut-être le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pour parler aussi, en ces termes-là, peut-être à la réduction de leurs émoluments, pour que tout cela puisse aider au bon fonctionnement des entités administratives qui seront installées. Et voir aussi la présidence, aussi là où il y a aussi une dépense budgétivore. Et même l'institution du Premier ministre, il y a aussi, même le gouvernement, il y a des dépenses budgétivores. Le Premier ministre ne peut pas se limiter à ce niveau-là. Il faut qu'il crée quand même beaucoup de canalisation. Et il faudrait que la gestion soit aussi orthodoxe pour que cette décision ne puisse pas souffrir d'une faille. Vous savez, monsieur Siré et la Mégis, c'est ça même la discussion qui est au niveau des politiciens. Puisqu'ils ne savent pas comment est-ce que la CENI va organiser les élections. Puisqu'il y a un préalable, le financement de la part du gouvernement. Je sais si peut-être hier, il y a eu une réunion, c'est mis tout ça, 53 millions de dollars que la police demande pour la sécurisation de ces élections. D'où viendront ces 53 millions de dollars? Vous voyez qu'ils vont essayer de mettre un peu la série devant les deux. Voilà, c'est ce que devant les tout accompli. C'est le fait qu'ils commencent à... Et même au niveau des régimes financiers, il faudrait qu'ils puissent se renforcer dans des conseils. Par exemple, il y a ce conseil, la TVA, les impôts, et même quoi ça, l'autre, c'est le général de l'État, l'OCC. Il faudrait qu'ils renforcent aussi de ce côté-là, et c'est un peu d'améliorer aussi les prix de ces gens-là pour qu'ils travaillent beaucoup, afin de générer les recettes, qui vont être canalisées directement à cette fin-là, ce que demande le Premier ministre.
Merci, merci beaucoup, Maître Songville. Vous estimez qu'il ne faudrait pas tout simplement effectuer ces coupes uniquement pour les membres du gouvernement. Il faut aussi voir le fonctionnement du Parlement, hein, dans la globalité, l'Assemblée nationale, les Sénats. S'il y a aussi la réduction des émoluments, on peut le faire. S'il y a des coupes budgétaires qui peuvent être aussi effectuées, qu'elles soient à la présidence et la République, toutes les institutions, d'une manière globale, voir où est-ce qu'on peut récupérer le fonds nécessaire pour financer les élections, la mise en place des entités. Mais vous avez aussi estimé qu'il faudrait un contrôle et suivi au niveau de régie financière, hein, et voir comment tout l'argent peut être canalisé dans les trésors publics, et comme ça on pourra faire face à ces besoins de financement de la mise en place des entités ainsi que de élections. Merci beaucoup. Clovis, vous êtes en Boujimaï, au Kassai Oriental. Bonjour.
Ah, bonjour Pierrot, et bonjour à l'invité, et bonjour à tous les amis de la radio Kapin.
On vous écoute, Clovis.
Merci. J'ai d'ailleurs salué cette décision du Premier ministre. C'est vraiment une très bonne chose. Pourquoi ? Puisque je crois qu'on va quand même mobiliser les recettes et on va revoir quand même à la baisse les dépenses. Pourquoi ? Il y a certaines personnes qui étaient en train de bénéficier beaucoup d'argent. Maintenant, le problème se trouve aussi au niveau de l'exécution. Il ne faut pas seulement que la décision soit prise comme ça, mais il n'y a pas un contrôle. On doit chercher à contrôler et aussi voir au niveau des personnes en tout qu'il y a dans certains département ministériel, qu'il y a des personnes fictives. Il faut contrôler à tout ce niveau-là. Et aussi, ce que mon prédécesseur venait de dire, maître, c'est aussi important. Il faut chercher aussi à revoir dans certains domaines, que ce ne soit pas seulement au niveau des départements ministériels, que ce soit aussi dans certains domaines, même au niveau des provinces, pour qu'on puisse quand même revoir et chercher maintenant l'équilibre financier. Pourquoi ? Puisqu'on trouve qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a parlé des émoluments, on a parlé, vous trouvez qu'il y a certaines personnes qui bénéficient au détriment de l'autre. Alors, à ce niveau-là, Pierrot, je pense que le Premier ministre va chercher seulement à exécuter efficacement cette décision et aussi à chercher à aller plus loin avec les décisions au niveau du Parlement, du Sénat, pourquoi pas aussi des assemblées provinciales et aussi des gouvernements provinciaux pour juste chercher l'équilibre social dans notre pays. Ça va vraiment bien permettre des entités qui seront renouvelées, qui seront installées et n'auront pas de peine. Et n'auront pas de peine pour mobiliser les recettes, pourquoi pas aussi l'argent pour les budgets s'il faut organiser les élections. Mais si on croit qu'il faut encore aller plus loin, il faut chercher seulement à exécuter toutes ces décisions et chercher à les mettre en pratique et pas chercher seulement à les écrire et les approuver, mais pas pour les contrôler et faire vraiment un très bon suivi pour pouvoir aussi chercher un équilibre. Mais de ce côté, je veux aussi parler à ce niveau-là, comme on a chercher à ce qu'on puisse revoir les dépenses que ça aille au niveau de la prestation du Premier ministre. On doit aussi chercher l'équilibre du côté de ces départements-là qui avaient déjà cherché à organiser, qui avaient déjà initié leur projet. On va aussi chercher une façon qui est un équilibre avec la décision qui a été prise par le Premier ministre pour que non, qu'il n'y ait pas vraiment de gaspillage.
Merci beaucoup, Clovis. Vous estimez qu'il faudrait étendre ces mécanismes même au niveau des provinces, voir quelles sont les dépenses qui peuvent être appréciées, qui sont nécessaires, et on peut récupérer autant d'argent. Mais l'essentiel pour vous, c'est que cette décision soit suivie, qu'effectivement, les cabinets, les membres du gouvernement puissent se référer au Premier ministre avant d'effectuer de ces dépenses. Et il ne sert à rien de pouvoir prendre la mesure s'il ne peut pas être appliqué. Il faudrait contrôler, que ce soit les Sénats, l'Assemblée nationale, voir comment on peut récupérer l'argent. Mais vous avez évoqué les cas de personnel fictif dans les cabinets ministériels. Vous estimez qu'il faudrait un contrôle pour être sûr vraiment que toutes les dépenses qui sont effectuées au niveau du ministère, effectivement, et ça de l'importance. Mais quant au projet déjà initié, parce qu'il y a un compatriote qui s'inquiétait par ça, il faudrait voir la pertinence de ces projets et comment ils peuvent être financés d'une manière rééquilibrée, et pourvu qu'on trouve les moyens nécessaires pour financer les autres opérations. Merci beaucoup, Clovis. Maurice, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute.
Oui, je salue d'abord M. Somoun et je félicite d'abord, comme d'habitude, pour son indépendance d'esprit et la rationalité de ses analyses. Vous savez, il y a quelques, je crois une semaine ou deux semaines, nous avions débattu sur la tribune de l'ancien Premier ministre Mouzito, qui parlait de l'État, en fait, RDC, il n'y a pas de budget de l'État. Il n'y a que le budget du pouvoir central. Je pense qu'il avait raison. Hein? Aujourd'hui, nous, Matata qui reconnaît la baisse des recettes. Et ces recettes ont toujours été évaluées à combien, réalisées d'abord à combien. Parce qu'on nous amène des budgets avec des chiffres aléatoires, juste pour épargner de la honte. Lorsqu'on dit 9 milliards, 10 milliards, qu'on ne sait même pas mobiliser la moitié de ce budget. Hein? Et lorsqu'on mobilise à peu près 4 milliards de dollars américains, et il faut voir la ventilation de ce budget, vous avez trois institutions qui vous consomment plus ou moins 65 à 70% du budget. Ce budget-là est abusivement dit national. Vous comprenez? Et dans ce budget-là, vous allez voir que les 60 ou 65% ou 70% sont juste pour le fonctionnement de ces institutions et la rémunération en fait des animateurs de ces institutions. Alors, aujourd'hui, lorsqu'il nous dit que non, il faudra maintenant qu'il soit soumis à un certain nombre en fait, d'exigences par rapport à la baisse et par rapport en fait, aux urgences. Donc aujourd'hui, vous observez que on organise en même temps 7 scrutins électoraux en moins d'une année. Il faudra organiser 7 scrutins. Et à côté de cette question électorale, il y a les redécoupages du pays. Hein? Est-ce qu'on n'avait pas le temps suffisant nécessaire pour passer à 26 provinces, parce que cette constitution est promulguée depuis 2005. Et pourquoi on n'a pas pu mettre en place les 25 nouvelles provinces, ou je ne sais combien de provinces là. Et qu'on attendait seulement qu'au moment où on doit organiser les élections, c'est en ce moment-là qu'on va venir avec la question sur le redécoupage du pays. Donc c'est pour vous dire que lorsque nous disons qu'il n'y a pas une volonté d'organiser les élections, il y en a même pas, malgré oui. Ce que vous sentez là, il y a voilà. Maurice, qu'on appelle l'électorat.
Maurice, on ne va pas revenir sur l'organisation des élections, parce que c'est vrai qu'on veut faire des coupes pour voir comment mobiliser les recettes pour d'autres besoins. C'est, pour nous aujourd'hui, c'est de comment cette mesure peut être rendue plus efficace pour effectivement qu'elle apporte les résultats sur les besoins qu'on a de mettre en place les entités, de réussir effectivement le financement des élections. Qu'est-ce qui doit être encore fait au-delà pour accompagner cette mesure, Maurice?
On dit que gouverner, c'est prévoir. Vous voyez l'imprévisibilité, c'est ça en fait, ça paye toujours. Lorsqu'on on gouverne par défi, les résultats sont toujours des défis. Hein? On savait très bien qu'on devait avoir besoin des moyens. Et ces moyens devaient être mobilisés depuis 2006. C'est comme ça, en fait, lorsqu'on dit que gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne pouvait pas souffrir, en fait, des moyens. On devait déjà avoir un compte déjà fermé, en fait, à l'installation de nouvelles provinces, et un compte fermé parce que le cycle électoral est de 5 ans. On ne doit pas, aussitôt qu'on lance le processus, on doit commencer à chercher des moyens. Ce sont des moyens qui devaient être déjà mobilisés et pendant qu'on va lancer les processus et on actionne les comptes. C'est comme ça normalement que ça fonctionne dans un état sérieux. C'est comme ça qu'on doit observer un état moderne fonctionner. Mais aujourd'hui, vous allez passer
Maurice,
des provinces.
Maurice, pour vous, vous estimez que on ne peut pas, ça va être compliqué, que pendant qu'on est déjà dans le cycle, que ce soit pour la mise en place des entités, que ce soit pour le financement des élections, qu'on ne puisse pas avoir de mesures urgentes, des coupes budgétaires par exemple, qui puissent permettre vraiment d'arriver à ça, ouais, il fallait déjà prévoir en amont depuis 2006, on devait déjà avoir le fonds mobilisé, que ce soit pour les élections, que ce soit pour la mise en place des entités pour les découpages en 26 provinces. Merci beaucoup Maurice et Dieu merci. Vous êtes à Manono dans la province du Katanga. Bonjour, Dieu merci.
Et du Katanga. Bonjour, Dieu merci. Bonjour, monsieur Journet.
Oui, pourriez-vous arrêter votre poste récepteur du merci, comme ça on pourra communiquer sans beaucoup de difficultés. Alors, vous avez suivi, Maurice, lui, il insiste beaucoup sur le fait que les mesures, quelles que soient les coupes budgétaires qu'on puisse effectuer pendant cette période, et ça ne va pas vraiment être plus facile de faire face aux besoins de la mise en place de ces entités, y compris le financement des élections, il fallait prévoir. Mais parce que c'est là, l'addition, elle est déjà là, on peut voir dans quelle mesure elle peut être accompagnée pour arriver vraiment à mobiliser ces ressources nécessaires pour les besoins du merci.
Merci beaucoup, M. Jean-Yves. Vraiment, je félicite un peu le Premier ministre Matata Ponyo pour cette décision, mais qui tombe en dernière minute. Pourquoi ? Parce que c'est inconstitutionnel. Lui, au niveau du ministère, savait bien qu'il avait l'organisation des élections. Mais pourquoi il ne fallait pas vraiment penser à cette décision bien avant, afin qu'on puisse mobiliser les recettes qui pourraient aider à l'organisation des élections, mais aussi à l'installation de ces nouvelles provinces. Mais il faut faire tomber la décision en dernière minute. Nous sommes à quelques mois des élections déjà. Voilà pourquoi certains Congolais peuvent dire que ça sera peut-être voué à l'échec. Mais on ne décourage pas de toutes les façons. De toutes les façons, c'est les problèmes de surveillance, de charges, mais aussi de contrôle. Mais nous, je peux vous dire, monsieur le journaliste, dans notre pays, il y a des contrôles qui ne terminent pas. Si vous allez dans l'enseignement, vous allez trouver jusque-là peut-être à travers le pays encore des enseignants fictifs. Mais chaque fois, il y a les contrôles de ces corps. Chaque fois, il y a des contrôles. Mais on ne savait pas comprendre, monsieur le journaliste, comment on n'arrive pas à découvrir parfois des agents là fictifs. Voilà tous ces problèmes-là. C'est demander seulement si le Premier ministre a pris cette décision qui est bonne pour aider le pays à organiser les élections. Mais ce qui reste, c'est demander à la bonne application de cette décision, faire les contrôles. Ça, c'est pour moi, monsieur le journaliste. Vous trouvez dans un pays comme la RDC ici, vous trouvez un ministre au niveau de son cabinet, il y a au moins 35 agents qui touchent l'argent qui peut toucher que même 60-50. Des agents d'autres secteurs peuvent toucher. Voilà le problème que nous pouvons demander au Premier ministre, c'est plus appliquer cette décision et faire le contrôle, pas seulement au département ministériel, même dans d'autres départements, dans d'autres secteurs, ça va donner l'argent et qui va permettre à organiser les élections attendues par tous les Congolais, mais aussi donner l'argent pour l'installation de nouvelles provinces. Pourquoi ? Parce que tout Congolais attend bien ce découpage, mais si ça va échouer à cause de l'argent, ça ne sera pas bon.
Merci beaucoup, Dieu merci, vous êtes à Manono, vous estimez que la mesure est tardive parce que là on est déjà ancré vraiment dans les opérations électorales mais aussi la mise en place des entités, il serait mieux de penser à ça depuis longtemps pour voir comment on pouvait limiter les dépenses au niveau du cabinet ministériel pour permettre à ce qu'on ait assez de moyens, assez de ressources pour financer la mise en place de ces entités, mais du moins vous souhaitez que le Premier ministre mette des mécanismes des suivis et des surveillances au niveau de chaque ministère pour voir comment la mesure peut être appliquée d'une manière plus efficace. Félicien, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. On vous accorde la parole, Félicien. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à l'invité.
Mm-hmm.
Moi, je ne comprends pas si c'est ça la gestion de l'État en Afrique en général et en République démocratique en particulier. Est-ce un tâtonnement volontiers ou c'est de la poudre qu'on aime mettre aux yeux de la population? Jusqu'à présent, on n'a jamais expliqué la modicité du budget de l'État avec tout ce que le pays regorge comme richesse. Et on vient, on se réveille un matin, on dit on va réduire les trains de vie des institutions, des gouvernements, de ce système-là. Et puis après, il n'y a rien qui change, tout ça. Est-ce que vraiment les gens ne se rendent pas compte que le pays est en train de reculer si on doit comparer des années des indépendances, des années de l'époque coloniale? Où des individus sont riches, tous ceux qui accèdent au pouvoir deviennent riches, mais le pays est toujours pauvre, et on va pas prendre des mesures, non, on va faire ceci, cela. Tout ça a été déjà dit par mes prédécesseurs. J'ai pas besoin de revenir, mais je veux vraiment que ceux qui nous gouvernent prennent conscience qu'ils ne sont pas sur la bonne voie et ils perdent vraiment avec un sursaut d'orgueil et un sursaut du patriotisme sauver ce pays. Parce qu'ils parlent de Lumumba, ils parlent de Kasavubu, mais ce sont des modèles et personne ne suit ces modèles-là. Ces gens-là ne s'étaient pas enrichis. Ils ont fait la différence entre la caisse de l'État, les trésors publics et les avoirs. Mais ici, des gens vont puiser dans les trésors publics et on va nous présenter des budgets de 7 milliards, de 9 milliards, alors que tout autour de nous, des gens qui ont presque les mêmes richesses que nous, ont des budgets de plus de 50 000 exemples de l'Angola. Et personne ne s'en offusque, on est à l'aise, on est là, et on s'amuse de tout ça. Mais quand est-ce que nous allons commencer à prendre conscience que nous devons vraiment bâtir un beau pays pour que nous devons léguer plutôt à nos enfants, à ceux qui vont venir de l'air. Mais c'est pas normal. C'est pas des décisions pour faire quelque chose, c'est pour s'amuser.
Alors, pour vous,
c'est bien. Il faut planifier, voilà. On ne peut pas travailler de cette façon-là, on se réveille le matin, on va faire ceci, on va faire cela, et puis après, ça disparaît comme ça. Donc, c'est comme si on veut se moquer de la population.
Merci. Vous estimez, Félicien, que toutes ces questions pouvaient être résolues si déjà on pouvait être fort dans la mobilisation des recettes compte tenu de ressources que nous avons, on pouvait avoir un budget costaud qui puisse permettre à ce qu'on puisse faire face à toutes ces dépenses plutôt que pouvoir prendre la mesure en cours, mais s'il n'y a pas de suivi, demain, on se rend compte que ça n'a pas vraiment résolu le problème. Vous avez insisté beaucoup sur la conscientisation de gouvernants par rapport à la différence entre les trésors publics et ses propres besoins, et comme ça, on peut avoir un budget qui puisse nous permettre de faire face à toutes les grandes dépenses. Sylvain, vous êtes à Lubumbashi, vous gardez la ligne, le temps que notre invité puisse se placer un mot par rapport à ces point de vue de nos auditeurs. Le Premier ministre, je venais de le dire, a instruit les membres du gouvernement. C'était dans sa lettre du 20 avril 2014 que toutes les dépenses autres que celles liées aux rémunérations et fonctionnement doivent être soumises à l'appréciation du Premier ministre. Et tout ça, c'est pour permettre à ce qu'on puisse faire des coupes qui permettent au gouvernement de mobiliser assez de ressources pour faire face aux dépenses liées à la mise en place de nouvelles entités, ainsi qu'au financement des échanges politiques et à des élections. Que pensez-vous de cette mesure 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo à une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Alors, Michel Sommeau, vous allez réagir par rapport au point de vue des auditeurs qui ont estimé que tout devait être prévu en élaborant le budget parce qu'on savait qu'on devait avoir les découpages, on devait avoir les élections. Il fallait déjà penser à cela depuis 2006-2011 aussi, ça c'est un problème. Les gens s'inquiètent par rapport à ça. Mais lors du compte-rendu de la Troïka stratégique du 20 avril dernier, les soldes des opérations financières de l'État au 17 avril 2015 étaient déjà déficitaires. On a expliqué que cela a été justifié par la paye et les transferts aux provinces exécutés respectivement à 91% jusqu'à à 106%, et alors c'était nécessaire parce que c'est une situation qui est survenue en cours. Mais vous comprenez quand même auprès de nos auditeurs que les gens sont très inquiets par rapport à la volonté même de mobiliser les recettes, à la volonté d'avoir un budget costaud qui puisse faire face à toutes ces opérations, des élections, des mises en place des provinces, alors qu'on savait qu'on devrait déjà les mettre en place.
Oui, alors... Thierry, je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Si
oui, vous êtes en ligne, vous êtes en ligne, oui.
Ok, c'est parfait. Non, je suis plus que comblé d'entendre toutes ces réactions de mes compatriotes. Parce que vous avez entendu Félicien, Maurice, Clovis et tous les autres. En particulier, Maurice a cité M. Mouzito, qui dit aujourd'hui que la RD Congo est un État sans budget. Vous savez, Pierrot, en 2007, quand Mozito était nommé ministre du budget, il m'avait fait l'honneur de m'approcher pour faire de moi son directeur de cabinet. Et je lui avais expliqué à ce moment-là, M. Mozito, parce que les prévisions budgétaires de 2007 étaient arrêtées à 1,2 milliard de dollars.
Mm-hmm.
Je disais à M. Mozito que je ne peux pas me sentir à l'aise de travailler aux côtés d'un ministre du budget, d'un ministre de 1 milliard de dollars, un budget équivalent à celui de la MONUSCO, qui n'est conçu que pour 20 000 hommes. Pour 20 000 hommes, MONUSCO a 1 milliard de dollars de budget. À ce moment-là, la RD Congo comptait environ 65 millions d'habitants. J'expliquais à monsieur le ministre du budget qui deviendra premier ministre après, que je suis très, très mal à l'aise par rapport à ma qualité d'économiste, par rapport à ma qualité de financier, j'aurais un problème de conscience de gérer avec lui ou de lui conseiller ou d'imposer à ce pays un budget aussi chétif. Sans mes mots, les chaînes de télévision le savent, les radios le savent. Je disais à monsieur Mozito qu'à ce moment-là, en 2007, le budget minimum qu'il fallait à la RD Congo se chiffrait à 52 milliards de dollars d'après mes calculs. Et personne ne m'a suivi. Monsieur le ministre Bruno Mozito est resté ministre du budget. Mais aujourd'hui, il dit que le Congo est un État sans budget. Mais quand je partais, quand je déclinais son offre, je passais pour un fou, pour quelqu'un de trop exigeant. Mais qu'aujourd'hui, mes compatriotes comprennent que ce pays ne mérite pas d'avoir un budget aussi chétif, aussi maigre, aussi ridicule. Moi, ça me console parce que je comprends que désormais, nous pouvons nous battre ensemble. Nous sommes maintenant un grand camp capable de nous battre pour que ce pays ait le budget à la hauteur de ses dotations naturelles. Le Congo est un pays plus que tous les pays de la planète. Je ne dis pas des choses comme un chanteur, un musicien, mais des choses qui reposent sur des analyses scientifiques. Vous savez, j'ai donné plusieurs fois des exemples à la télévision pour dire rien que le crédit carbone, si nous devions un gouvernement et un État capable, digne, rien que pas ce qu'on appelle le crédit carbone ramènerait le Congo à un budget minimum de 300 milliards de dollars. Rien qu'en mobilisant ce qu'on appelle le crédit carbone. Mais pour cela, il faut que nous ayons un État capable, un État fort, un État qui peut faire valoir ses droits, un État souverain, et non pas un État qui sert du tout au sens du patrimoine commun de l'humanité. Là, ça pose un problème. Nous nous privons de l'essentiel de ce qui devrait constituer nos ressources aujourd'hui. Et nous sommes en train de nous chamailler, de nous diviser pour des miettes de l'ordre de 5-4 milliards de dollars. Je vous ai parlé dans l'introduction, Pierrot, que le Premier ministre est suffisamment capable, là où il est, d'apprécier l'efficacité des décisions qu'il est en train de prendre. Parce qu'il y a deux choses. Une chose, c'est la rationalité de la dépense. Par rapport à ses capacités personnelles de mobiliser un budget en faveur de la RD Congo. Je ne veux pas le juger parce que j'estime que si le Premier ministre là où il est et s'il donne à ce pays un budget de 4 milliards de dollars tel qu'il est en train de le faire, ceux qui l'ont nommé sont satisfaits de ce qu'il fait. Alors ça suffit. Comme nous, on n'a rien à dire, nous avons parlé suffisamment que ce pays ne peut pas avoir un budget aujourd'hui inférieur à 300 milliards de dollars. On ne nous suit pas, on se tait. Alors dans les 4 milliards, il y a un problème de rationalisation des dépenses. Mais en rationalisant les dépenses comme il est en train de le faire, j'ai parlé de sacrifice. Il est en train de sacrifier probablement l'essentiel de la mission de ce ministère. Lorsque vous réduisez le ministère aux seules dépenses de fonctionnement et de rémunération, mais vous étranglez la mission spécifique de chaque ministère. Parce que désormais, c'est lui le Premier ministre qui deviendra ministre du plan, ministre de l'économie nationale, ministre de l'industrie, ministre de tout ce qui a vocation à engager des dépenses de survie de l'État, des dépenses de création d'un État plus grand. Donc il centralise tous les pouvoirs à son niveau pour que lui seul devienne maintenant le ministre de chaque ministère. Et là, ça fait un problème. Je voudrais dire que ce n'est pas simplement cette première fois qu'il vient de le faire, hein, c'est pas la première fois que M. Matata prend cette décision. Le gouvernement qui est sorti, j'ai entendu des ministres se plaindre en disant qu'il n'était ministre que de nom, parce qu'ils n'assumaient pas leur fonction ministérielle. Le ministre des Affaires foncières n'était ministre des Affaires foncières que de nom. Poser la question au professeur qui était ministre des Affaires foncières, excusez-moi, non, m'a échappé, poser la question, il vous dirait, il se plaignait. Moi, je le dis ouvertement. Il se plaignait qu'il était ministre des Affaires foncières que de nom. Alors maintenant, il vient de l'officialiser à travers une lettre qui interdit au ministère de faire du DFCE les fonctions spécifiques à leur mission propre, pour se réduire à une simple administration de rémunération des cabinets et des frais de fonctionnement. Les plus malins vont sûrement inclure dans les fonctionnements des choses qui sont beaucoup plus complexes parce que c'est un terme qui est beaucoup plus vaste. J'apprécie ceux qui parlent de Félicien est allé tout droit en parlant de tâtonnement, de la modicité du budget, etc. Mais il y a plus. Le problème, c'est que, comme a dit un intervenant qui parlait de l'équilibre, il n'est pas bon dans un pays qui prêche la rigueur qu'on laisse des individus s'enrichir au-dessus des ministères et sur les dos des citoyens. Ce que nous constatons dans ce pays, c'est qu'un individu qu'on nomme à la tête d'un portefeuille quelconque de l'État, il devient plus riche que l'ensemble de la structure qu'il est en train de gérer. Lui, individu, c'est pas normal. Lorsque on veut rationaliser les choses pour dire que nous voulons appliquer la rigueur, on doit se l'appliquer d'abord à soi-même. C'est ce que Félicien dit en prenant les Lumumba et les Kasavubu comme modèles, ou en les prenant pour des modèles. Mais nous sommes un pays où l'exercice du pouvoir de l'État ressemble à une course trop effrénée à l'argent facile, à l'argent rapide. Il n'est pas normal, dans un pays qui veut gérer dans la transparence et dans la rigueur, que l'on voit un train de vie aussi insolent que celui que nous affichent ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Ça veut dire que des gens, de façon tout à fait impunie, s'organisent pour spolier le patrimoine de l'État. La fois dernière, sous vos antennes, Pierrot, j'avais parlé des charognards. Maintenant, je dis aujourd'hui qu'on prenne de telles mesures pour sacrifier certains et laisser les autres, parce qu'il y a de l'arbitraire, je l'ai dit dans mon introduction. Pourvu que la ministre, le ministre ne relève pas de l'arbitraire et de l'injustice au moment où il faudrait autoriser telle dépense pour tel ministère et refuser pour tel autre, en fonction des allégeances, en fonction des amitiés, ce sont des choses auxquelles nous sommes habitués. Bref, le problème du Congo n'est pas dans cette mesure que vient de prendre le Premier ministre. Je m'empresse de tirer la conclusion. Je reviendrai à la conclusion. Le salut du Congo n'est pas dans cette mesure. Pourquoi? Parce que cette mesure va obliger le gouvernement à rester dans ce qu'on appelle le saupoudrage des miettes. Lorsque un ministère n'a pas de moyens suffisants pour son fonctionnement efficace, pour réaliser sa mission, eh bien, tout l'argent qu'il est en train de dépenser, que ce soit pour la rémunération, pour le fonctionnement, c'est du gaspillage. Et c'est du manque à gagner énorme pour la République. Je pense que le salut de ce pays est dans le courage, dans l'intelligence des nationaux pour dire, est-ce que nous sommes, oui ou non, capables de mobiliser 300 milliards de dollars de recettes dans notre pays? Je viens de vous dire que le Luxembourg n'a même pas un demi-million d'habitants. Ils sont moins de 500 000. Mais ils ont quand même un budget de 25 milliards de dollars, s'il vous plaît. Et pourquoi un pays comme le Congo, près de 80 millions d'habitants, nous sommes autour de 78 presque aujourd'hui, comment on peut avoir un budget de 4 milliards? Quand on fait le rapport, ça signifie qu'il y a un problème. Mais est-ce que les Congolais sont d'accord avec ce budget ou bien est-ce qu'on nous le fait avaler, on nous le fait consommer par défi, comme a dit, je crois, Maurice? Mais moi, je pense que, quelque part, il faudrait que la vie publique dans ce pays soit suffisamment moralisée pour que l'État qui nous gère soit un État plutôt congolais qu'un État qu'on nous impose de l'étranger. Vivre des choses qui ne sont pas celles qui reflètent la réalité de nos dotations naturelles, de nos capacités, de nos potentialités humaines.
Alors, Michel Sommoué, parce que vous avez évoqué le fonctionnement de ministère qui est, les uns peuvent être étranglés, mais c'est vrai aussi qu'il y a d'autres dépenses au niveau de ministère. Il y a eu, lors du gouvernement Matata 1, avec sous réserve de ne pas citer les noms, il y a eu quand même des membres du gouvernement qui ont pu toucher l'argent du trésor public pour des missions qui n'ont pas été effectuées. Ça, c'est vrai. Après, il n'y a pas de rapport d'émission. Il arrive que des cas comme ça soient là, qu'on puisse créer, multiplier autant de missions dans un mois, juste peut-être pour avoir aussi les moyens de, d'avoir l'argent, donner l'argent aux collaborateurs. C'est là, arrive, hein. Vous l'avez dit, c'est pas la première fois qu'on assiste à ça. Mais on a quand même intérêt de savoir, un peu ministre en train de savoir, mais qu'est-ce qui se passe juste quand même pour éviter qu'il y ait une multiplicité d'émissions et des séminaires qui, en fin de compte, n'apporte même pas pour l'efficacité même du travail au niveau du gouvernement.
Écoutez, Pierrot, nous sommes dans un système du sauve qui peut. C'est l'impression que la gestion de l'État congolais me donne. Ils ont instauré dans ce pays un système du sauve qui peut. Celui qui accède aux fonctions politiques estime qu'il a été sauvé, alors il doit jouir pleinement. J'ai dit que le Premier ministre, je pense que monsieur le Premier ministre doit donner un bon exemple. En toute amitié, j'aurais dû le lui dire, son il est en face de lui, il devrait donner lui-même un très bon exemple. Il y a quelqu'un qui a parlé de la fraude, je crois que c'est Clovis Avumbach, qui a parlé de la fraude à grande échelle dans le secteur au niveau des régies financières. Fraude à grande échelle. Mais je peux vous dire, Pierrot, qu'il y a un monsieur dans ce pays, patron d'une société, qui doit plus de 900 millions de dollars à l'État congolais. Sur une décision, comment on appelle, la décision prise par le DG de la DGDA. Parce que monsieur a été attrapé la main dans le sac comme fraudeur. Et d'après la loi de cause douanier, il devait payer, le PV ont été établis, l'infraction établie, monsieur doit verser au trésor public au moins 930 millions de dollars. Il doit payer. Mais ce monsieur, non seulement il ne paye pas, c'est une décision sur laquelle tout le gouvernement est au courant, non seulement il ne paye rien, mais il bénéficie auprès de la primature, monsieur le Premier ministre, d'un marché encore exorbitant. Alors dites-moi à ce moment-là, et ces dépenses-là qui vont dans ce monsieur qui est débiteur de l'État, monsieur qui a pillé, spolié, criminalisé l'économie congolaise. Mais vous, le chef du gouvernement, vous lui accordez encore la faveur d'un marché luxurieux, d'un marché abondant d'argent, et c'est connu dans ce pays. Mais dites-moi à ce moment-là, quel est le bon exemple que vous donnez? Comment voulez-vous que le ministre des Sports, par exemple, le ministre des Sports, par exemple, vous suive dans cette décision et que lui soit meurt de faim alors qu'il est ministre et toute la famille attend de lui que le salut, parce que c'est, quand il y a un des membres de la famille qui accède aux fonctions publiques, ça devient le salut pour toute sa famille. Il n'est là que pour ça. Mais écoutez, je ne dis rien contre le ministre des Sports, j'ai spécialement un exemple, je ne le connais même pas. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des murmures au niveau du gouvernement? Comment voulez-vous que le monsieur qui est nommé ministre, qui voit qu'au sommet, au-dessus de lui, il y a un tel scandale parce que c'est connu, comment voulez-vous l'empêcher, lui aussi, d'abuser des fonds du Trésor? Comment on peut l'empêcher? C'est comme ça que vous voyez parfois des ministres effectuer des missions destinées à une équipe de football, par exemple, mais il met les membres de la famille de la délégation, ils s'empiffrent d'argent de l'État, et finalement, rendement meilleur que pour l'État congolais. Je dis, c'est un système qui est en place, un système de sauve qui peut. Et face à ce système, le Congolais doit pouvoir se tenir debout pour combattre un tel système. Ce n'est pas facile. Il nous faut une révolution, une autre révolution, pas la révolution de la modernité, non. Il nous faut une révolution véritable pour rompre ce système, et mettre ce système hors d'état de nuire, parce qu'en fait, il est en train de nuire à l'avenir, il est en train de nuire au destin de tout un peuple.
Voilà.
Un grand pays a une grande vocation.
On va revenir à vous.
Il faut l'arrêter de façon courageuse et radicale.
On va revenir à vous, monsieur Michel Sommeux. Vous estimez que nous sommes dans un système des sauve qui peut, quand quelqu'un accède à un poste de responsabilité au niveau de que ce soit le portefeuille, que ce soit n'importe où, il pense d'abord à sauver sa peau, à sauver la famille. Voilà le système dans lequel on se retrouve. Dans ce sens, vous estimez qu'il faut une évolution du système, il faut que les gens changent pour qu'on puisse avoir un budget qui nous permette de faire face à toutes ces dépenses. Sylvain, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga, 081-890-7315, le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission qui touche déjà à sa fin.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Laissez-vous dire.
Sylvain, vous êtes à Lubumbashi dans la province du Katanga, c'est la ligne droite vers la fin de cette émission. Vous avez suivi la vie des uns et des autres. On pense que le système tel qu'il fonctionne, avec la faible mobilisation des recettes pour atteindre un budget constant qui puisse nous permettre de faire face aux besoins, ça sera difficile, hein, malgré ces soucis du Premier ministre de pouvoir contrôler ses dépenses au niveau de membres du gouvernement. Dommage, on a perdu Sylvain, je crois bien. Mais nous avons des messages qui ont été déposés sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Edmond Ramazani dit ceci: une décision excellente et susceptible à promouvoir, à pouvoir favoriser la bonne gestion financière au sein du ministère. La gestion est saine lorsqu'il remplit les éléments suivants: la prévision, les suivis, l'évaluation ainsi que la sanction. Alors lui pense qu'il faudrait vraiment ouvrir l'œil, hein, pour voir comment les fonds alloués à chaque ministère sont utilisés, et ces fonds peuvent facilement permettre au gouvernement de financer la mise en place des entités. Alors, Guy Serge Kabambi de Kinshasa lui dit, mais alors c'est compliqué, on venait de remanier les gouvernements, alors si on trouve qu'il y a des gens qui font des dépenses au-delà de ce qui est prévu au niveau de leur ministère, le Premier ministre n'a qu'à pouvoir les sanctionner, et alors, pour lui, il pense que le cadre macroéconomique et son amélioration n'a pas eu d'impact sur notre capacité de mobiliser les recettes. Nous avons Charles Moïse a dit ceci: c'est une bonne mesure, mais malheureusement, ça risque de ne pas être appliqué comme il faut par tous les membres du gouvernement. Il faudrait que tout soit contrôlé d'une manière à ce que tous les membres du gouvernement passent par le Premier ministre quand ils veulent effectuer toutes ces dépenses. Merci aux uns et aux autres. Nous avons professeur Robert qui nous appelle de l'université de Kinshasa. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bien-aimé.
Vous avez suivi les uns les autres, plusieurs personnes sont revenues sur le fait qu'il fallait déjà prévoir le financement de la mise en place des entités ainsi que des élections, mais effectuer des coupes ou bien surveiller les dépenses au niveau du ministère en ce moment, ça ne pourra pas être plus efficace pour permettre à ce que l'État se dote de moyens nécessaires pour faire face à sa dépense. Quel est votre point de vue?
Merci. Bon, je salue tout le monde qui est là, M. Somouin, vous-même et tous les auditeurs. Ce que moi je vais dire, c'est un peu cette précipitation. Moi je pense que quand on fait un budget, on fait des prévisions. Ce sont des prévisions. D'ailleurs, le budget lui-même est un ensemble de documents préparés pour le futur. Alors, dans ce budget, nous estimons que il a été prévu l'installation de nouvelles provinces. Ça devrait se trouver déjà dans le budget parce que le budget a été voté au mois de mars passé. Ça signifie que l'installation des nouvelles provinces était déjà budgétisée. Donc, il n'y a pas lieu de prétendre faire des coupes et faire de cette action une action d'urgence. C'est trop fort. C'est une escroquerie, comme a dit M. Somouin. Alors, il y a aussi ce budget qui n'est même pas encore appliqué. Parce que nous sommes au mois d'avril ici. La programmation de janvier, février et mars, c'est le premier trimestre. Cette programmation a été reconduite au mois d'avril, mai, juin. Ça signifie que nous continuons avec des crédits provisoires. On n'applique pas encore ce budget. Ça signifie que même les rémunérations, il y a des arriérés qui sont sacrifiés. Et donc, ce sont je dois dire que c'est du mensonge pur et simple. Alors, je proposerai quand même ceci.
Bon, allez-y rapidement, oui.
Si vraiment le Premier ministre a besoin d'aider ce pays, il doit appliquer le budget qui a été voté par le Parlement, mais qui n'est pas encore appliqué depuis le mois de mars. Donc, s'il applique ce budget, C'est là-dedans qu'on trouvera les prévisions, les dépenses prévues pour l'installation des provinces. C'est inutile de prétendre qu'on va faire des coupes et tout ça. Ça, c'est mettre les gens, comment je peux appeler ça, nous faire avaler un mensonge.
Voilà, oh, merci beaucoup, professeur Robert. Merci à tous les autres auditeurs. Vous estimez qu'on n'a qu'à appliquer les budgets qui ont été votés. Ça va résoudre cette question de financer, que ce soit la mise en place des entités, que ce soit les élections et autres. Mais recourir à des coupes ou à la surveillance de dépenses au niveau de ministère, ce n'est pas possible. Merci. On revient à vous, Michel Sommer, à 1 minute et demie pour conclure cette émission. On a suivi les uns et les autres les soucis aujourd'hui dans cet échange, dans ces magazines citoyens par aux auditeurs, c'est de voir comment accompagner les mesures qui sont prises aussi par les pouvoirs publics hein, pour qu'elles soient vraiment efficaces et qu'elles trouvent solution aux problèmes qui se posent dans la communauté et qui, en fin de compte, puissent avoir des résultats sur toutes les autres matières planifiées au niveau du pouvoir public. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cette émission ?
Pierrot, pour conclure, je redis ce que tout le monde a dit. Le budget est un état de prévision et les prévisions doivent être rigoureuses. Mais il est curieux, vous le constatez avec moi, comme vient de dire le professeur Robert, qu'un budget voté au mois de mars puisse déjà subir des retouches si violentes et si fortes, des mesures graves, juste un mois après. Il y a quand même un problème, sauf si les dépenses qui sont en train d'être faites par les différents ministères n'ont pas été prévues dans le budget. À ce moment-là, ce qu'il fallait faire, c'est sanctionner. Si effectivement les ministères qui se voient aujourd'hui, c'est vrai, des mamelles de l'État, des gens publics pour financer leurs activités, si ces ministères sont en train d'exécuter le plan du budget tel qu'il a été prévu et voté en mars, il n'est pas bon que le Premier ministre les en empêche aussitôt le budget voté, juste un mois après. Ça fait quand même un scandale, à mon humble avis. Là, je raisonne dans la logique actuel du budget tel qu'il est. Mais sinon, je répète mes mots en disant, le budget tel que nous l'avons n'est pas un budget pour un pays comme la RD Congo. Le budget que le Premier ministre devrait donner à ce pays, parce que c'est un économiste, c'est un financier, il a géré de belles choses. Je connais ses qualités, ses compétences personnelles, je le connais très bien. Je pense que s'il est sincère, il ne devrait pas faire ce que Moïse fait. Pratiquement 8 ans après qu'il m'ait donné l'impression que j'étais mauvais, en lui disant la vérité, qu'il revienne 8 ans après sur ce que je lui avais dit, et qu'il en fasse maintenant un grand cri, un grand bruit. C'est pas correct. Si le Premier ministre sait que la vérité est que le Congo n'a pas le budget qu'il lui faut, mais il faut que le Premier ministre garde sa langue dans sa bouche et non pas dans sa poche. Dieu a nous a mis la langue dans la bouche pour que nous puissions dénoncer ce qui n'est pas bon au moment où ce n'est pas bon. Il ne faut pas attendre 10 ans après pour dire je suis dans des fonctions politiques, je suis empêché de parler, je dois garder ma langue dans ma poche. Là, ce n'est pas de l'amour pour la patrie et j'invite tous les Congolais à être patriotes.
Merci.
À savoir que nous avons besoin d'un État qui vit.
Merci beaucoup,
Michel. À la hauteur de ses moyens.
Voilà, merci beaucoup, Michel Sommer. Vous êtes analyste économique. Merci à toute l'équipe qui nous aide à produire cette émission. Mimi Kindou a assuré la mise en nom des Julie Fesa à la réaliser. Vous allez trouver parole aux auditeurs sur www.radiotapi.net. Au revoir. Mélinda Bossuma pour les journaux.